Vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les bureaux de vote sont ouverts en Israël pour des élections législatives, les deuxièmes en 5 mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou y joue sa survie politique. Quelle chance a-t-il ? Nous analyserons cela avec notre envoyé spécial à Tel Aviv.
Nous nous pencherons ensuite sur la guerre au Yémen et l'enlisement de l'Arabie Saoudite. Ses ennemis sur le terrain, les rebelles houthis, sont de mieux en mieux armés, vous l'entendrez.
Facebook veut lancer sa monnaie virtuelle, la Libra. Ses représentants rencontraient hier pour la première fois des émissaires de grandes banques centrales. Les pays, notamment en Europe, reste craintif.
Ils avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie à Lyon. Deux jeunes gens sont relaxés par un juge. C'est une décision inédite, vous le comprendrez.
Et puis après cette édition, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique. Il se demandera ce que peut être un bon ministre. Et revoilà les urnes en Israël. Pour la deuxième fois en 5 mois, des législatives y sont organisées pour élire les 120 députés de la Knesset. Il s'agit en fait de renouveler ou non le mandat de Benjamin Netanyahou, premier ministre sortant au pouvoir depuis 10 ans maintenant. En avril dernier, il avait remporté des élections, mais il n'était pas parvenu à trouver une coalition. Aujourd'hui, l'équation reste inchangée. Parmi les candidats, son rival sérieux reste le centriste Benny Gantz. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Clara.
Omar, vous êtes à Tel Aviv pour France Culture. Benjamin Netanyahou joue sans doute l'élection la plus difficile de sa carrière aujourd'hui. Lors de la campagne, il aura tout tenté.
Oui, Benjamin Netanyahou a quitté tout double. La campagne a été extrêmement violente de part et d'autre. Le Premier ministre israélien se retrouve dans la même situation qu'il y a 5 mois. Son parti de droite, le Likoud, fait quasiment jeu égal avec la formation centriste bleu-blanc de son adversaire Benny Gantz, cet ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Selon les derniers sondages, les deux partis obtiendraient chacun une trentaine de sièges sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement. Donc il s'agira de départager lequel sera le plus en mesure de former une nouvelle coalition gouvernementale avec un jeu d'alliance. Et comme en avril dernier, l'arbitre pourrait bien être le très nationaliste mais laïque Avigdor Lieberman. C'est le faiseur de roi de ce scrutin, l'ancien ministre de la Défense Lieberman, qui refuse toute coalition avec les religieux, les ultra-orthodoxes, alliés de Benjamin Netanyahou. Donc les négociations à l'issue de ce scrutin à un seul tour s'annoncent houleuse et la partie est très serrée pour Netanyahou, empêtré dans des affaires de corruption et menacé d'une mise en examen. Mais une victoire électorale pourrait permettre à son camp de lui voter une loi sur mesure, une loi sur l'immunité, ce qui lui permettrait d'échapper à la justice.
Et lors de ces élections aujourd'hui, Omar, élections législatives, c'est finalement l'abstention qui pourrait être décisive.
Oui, il faut dire que 5 mois après le dernier scrutin, la campagne qui vient de s'achever n'a pas passionné les Israéliens. À droite, Benjamin Netanyahou mise surtout sur une forte désaffection des électeurs arabes qui représentent autour de 20% des 9 millions d'habitants du pays. En avril dernier, le taux d'abstention de ces électeurs, véritable épouvantail, avait dépassé les 50%. La population arabe fait figure ici en Israël, je l'ai dit, d'épouvantail. La droite n'a pas hésité à attaquer très violemment sa légitimité à participer à la vie politique israélienne, ce qui ne les pousse pas à se déplacer aux urnes. Quant à la gauche, elle s'est totalement effondrée et pèsera très peu sur l'issue du scrutin. Les travaillistes ont divisé par 4 leur nombre de députés depuis 2015. Ils n'ont quasiment plus d'influence. C'est donc une société israélienne très divisée qui vote ce mardi. On disposera des premières tendances aux alentours de 22h après la fermeture des bureaux de vote.
Merci beaucoup Omar Waman. Vous êtes en direct de Tel Aviv et vous suivez évidemment pour nous ce scrutin tout au long de la journée. Vous êtes avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur franceculture.fr. Un article vous y attend, notamment sur la mosaïque d'électeurs israéliens, des électeurs aux intérêts divergents, nous venons de le comprendre. Photos et nombreux témoignages le prouvent sur franceculture.fr. Sur notre site internet également, ce matin, retrouvez l'information de la cellule investigation de Radio France. Avec Lighthouse Reports et Disclose, elle apporte la preuve visuelle de l'implication française dans le blocus au Yémen. Une frégate saoudienne y est entretenue par la France. Les vidéos sont donc sur franceculture.fr. Et c'est le conflit au Yémen qui provoque les tensions dans la région notamment. L'attaque de drones sur des installations pétrolières saoudiennes ce week-end prouve que l'Arabie saoudite peut être touchée directement. Les rebelles yéménites houthis s'en félicitent ouvertement. Et du côté de Riyad, on ne peut que constater que la guerre engagée en 2015 s'enlise, Christian Chéneau.
Pour l'Arabie Saoudite, cette attaque de drones est un choc et une humiliation. Quand en mars 2015, elle avait lancé sa campagne militaire pour chasser les rebelles houthis du pouvoir à Sanaa, elle espérait une guerre rapide. Elle avait même baptisé son offensive « tempête décisive ». 4 ans plus tard, les houthis alliés de l'Iran contrôlent toujours la capitale du pays. Face à la puissance militaire et financière de Riyad, soutenue par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, les rebelles yéménites sont devenus les experts d'une guerre asymétrique qui tourne au fiasco pour l'Arabie. Retranchés dans leurs montagnes, ils ont récupéré des stocks d'armes, notamment des missiles et de l'explosif de l'armée de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Avec l'aide directe ou indirecte de l'Iran et du Hezbollah libanais, ils ont amélioré la puissance et la précision de leur armement. De son côté, l'Arabie Saoudite a dépensé des fortunes pour se payer le système de missiles sol-air Patriot afin de protéger son territoire et les installations pétrolières du royaume. Visiblement, les Houthis ont trouvé la faille dans la cuirasse saoudienne. Riyad va devoir repenser de fond en comble son système de défense qui a montré sa vulnérabilité. Cette attaque de drone spectaculaire pourrait avoir des conséquences contradictoires. Accélérer un processus politique de sortie de crise déjà engagé après l'annonce du retrait des Émirats ou au contraire précipiter l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux dans une surenchère militaire.
Une attaque de drones dont on ne connaît toujours pas de manière certaine les auteurs. Hier, l'Américain Donald Trump a tempéré son discours, estimant qu'il semble que ce soit l'Iran. Mais il préfère attendre les résultats de l'enquête menée sur le terrain en Arabie Saoudite. Partons maintenant en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban veut uniformiser, au sens propre du terme, les fonctionnaires du pays. Il a fondé une agence d'État pour promouvoir la mode hongroise et c'est elle qui va décider les uniformes pour tous les fonctionnaires, Florence Labruyère.
La nouvelle a été annoncée par un journal indépendant. L'agence hongroise de la mode est en train de recruter des stylistes. Ils vont dessiner des uniformes pour les employés d'un organisme public qui fournit les services en ligne du gouvernement. Il emploie 1600 fonctionnaires qui vont donc être appelés à porter un uniforme au travail. Selon la presse, cette mesure serait un coup d'essai. À terme, tous les fonctionnaires devraient être rhabillés à la mode Orban. Ils sont environ 845 000 en Hongrie. À cela s'ajoutent 300 000 employés qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais qui travaillent pour des entreprises d'État. On ne sait pas si ces derniers seront concernés. On ne sait pas non plus si les enseignants de l'éducation nationale devront eux aussi porter l'uniforme. Les responsables de l'agence d'État pour la mode ne donnent pas d'interview. Certes, la Hongrie n'est pas le seul pays où l'État s'implique dans le secteur de la mode. En Angleterre, le British Fashion Council, le Conseil britannique de la mode, fait la promotion des stylistes du Royaume-Uni. Mais la spécificité de l'agence hongroise est qu'elle est dirigée par une amie d'enfance de la fille du Premier ministre, Rachel Orban. Rachel Orban, qui est responsable de la stratégie touristique du pays. La mode, c'est un peu une affaire de famille en Hongrie. Et c'est une caractéristique du gouvernement Orban. Il fonde de nouveaux organismes ou encourage la création de nouvelles entreprises. À leur tête, il met des amis ou des proches. Et ensuite, les commandes d'État pleuvent. Les marchés publics sont attribués sans aucune mise en concurrence. C'est un capitalisme dirigé et clientéliste qui enrichit le cercle des fidèles du régime.
C'était Florence Labruyère en Hongrie pour France Culture. Boris Johnson avait-il le droit légalement de suspendre le Parlement britannique pour 5 semaines? La Cour de justice écossaise estime que non, la Haute Cour de Londres que oui. Aujourd'hui, la Cour suprême va trancher outre-Manche alors qu'un Brexit dur pourrait avoir lieu dans 6 semaines et que le Premier ministre refuse toujours de l'annuler.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Paris et Berlin ne veulent pas laisser Facebook battre monnaie, même de façon virtuelle.
Oui, car ils s'en méfient. Le premier réseau social au monde entend lancer l'année prochaine Libra. C'est effectivement une monnaie virtuelle qui permettra à ses utilisateurs de s'envoyer de l'argent et d'acheter des produits en direct sur Facebook, WhatsApp ou Messenger. Hier, les représentants de 26 banques centrales se sont réunis en Suisse, à Bâle, pour écouter les arguments de Facebook et de ses partenaires. Louise Baudet.
Sur le papier, Libra est une bien belle idée. Un outil au service des exclus du système bancaire mondial, trop pauvres pour avoir un compte ou une carte de crédit. Une monnaie virtuelle qui réduira aussi le coût des transferts d'argent pour les immigrés qui aident leur famille restée au pays. Bref, un système dont l'utilité va bien au-delà du paiement de son Uber ou de son hôtel sur Booking sans sortir sa carte bleue. Sauf que de nombreux gouvernements et organismes de régulation se méfient. Ils voient dans Libra monnaie privatisée, une menace pour les consommateurs. consommateurs, mais aussi la stabilité financière mondiale et la souveraineté des États seuls à pouvoir battre monnaie. En cause notamment la taille de Facebook, presque 3 milliards d'utilisateurs et ses erreurs en matière de confidentialité et de protection des données. La semaine dernière, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a mis un nouveau coup de pression. Pas question, dit-il, de laisser Libra se développer sur le sol européen. Mieux ou pire, la France et l'Allemagne préconisent une devise numérique publique concurrente de celle de Facebook. Et il n'y a pas qu'en Europe que Libra est mal vue. La Chine l'a interdite et même les États-Unis se méfient. Bref, le rapport concocté par le groupe de travail à l'origine de la réunion d'hier à Bâle risque d'être peu élogieux. Il doit être remis au ministre des Finances du G7 courant octobre.
Et à Paris, l'exécutif préfère encourager, plutôt que Facebook, les jeunes pousses françaises du secteur technologique. Emmanuel Macron s'exprimera ainsi ce soir devant le gratin des jeunes entreprises et du capital risque. Il souhaite bâtir un nouveau système pour garder ces nouvelles entreprises en France, Rosalie Lafarge.
Quand une start-up française grandit et veut s'attaquer aux marchés internationaux, elle a besoin de dizaines, voire de centaines de millions d'euros. Difficile à trouver en France. La tendance veut donc qu'elle aille chercher des capitaux aux États-Unis auprès de grands fonds américains. Pour faire rester ces entreprises, Emmanuel Macron doit annoncer ce soir des milliards d'euros d'investissement. L'objectif étant d'avoir une dizaine de fonds français d'ici 2022. Ces milliards viendront pour un tiers d'acteurs publics comme EDF, la Caisse des dépôts ou l'ERAFP, l'organisme qui gère le régime de retraite additionnel de la fonction publique. Les deux autres tiers venant d'acteurs privés, principalement des grandes banques et des assureurs, le Crédit Mutuel, la Société Générale, AXA, Generali ou encore AG2R La Mondiale. Une large mobilisation française censée faire venir des investisseurs étrangers. Au-delà du financement, le président veut aussi simplifier la vie de ces jeunes entreprises. Les 120 start-up les plus prometteuses vont ainsi bénéficier d'un programme d'accompagnement public poussé avec un correspondant dans chaque ministère et service public. À l'URSSAF, par exemple, une équipe spécifique aidera ces pépites à comprendre les règles et à faire les bonnes déclarations. C'est en fait tout un écosystème favorable à la croissance des start-up que veut mettre sur pied l'exécutif, pour qui l'enjeu tient en une question. Est-ce qu'on laisse les États-Unis et la Chine décider de notre futur et on sort de l'histoire, ou est-ce qu'on choisit d'écrire la nôtre ?
Voilà donc pour l'une des grandes orientations du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a aussi hier donné la direction à suivre pour la majorité lors des municipales à venir. Il s'est exprimé face aux parlementaires de la République En Marche et du Modem en leur demandant de prendre position sur les questions d'immigration, notamment à 15 jours d'un débat organisé à l'Assemblée nationale et à 6 mois des municipales. Emmanuel Macron ne veut pas, dit-il, abandonner ces questions au Rassemblement national. Il ne faut pas, a-t-il lancé, être un parti bourgeois, car, dit le président encore, ce sont les classes populaires qui vivent avec l'immigration et qui ont migré vers l'extrême droite. C'est un jugement qui sera sans doute étudié dans les écoles de droit. Hier soir, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé deux décrocheurs d'un portrait d'Emmanuel Macron. Ils étaient poursuivis pour vol en réunion, après avoir donc décroché la photo du président dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon. Ils protestaient contre le manque d'investissement du gouvernement face au changement climatique. Et pour les relaxer, le juge a évoqué un motif de légitimité, Mathilde Imberti.
Les militants saluent une décision inédite. Le juge reconnaît dans son attendu la légitimité de l'action de ces deux Lyonnais qui, en février dernier, ont décroché le portrait du président pour dénoncer son inaction face au changement climatique. Lors de l'audience, Cécile Duflot, ex-ministre de l'écologie, avait en effet souligné que la politique ne se donnait pas les moyens de lutter. Le juge prend en compte les arguments des militants et reconnaît aux citoyens un devoir de vigilance critique. Pierre Boinvic jubile, 500 euros d'amende avaient été requis à son égard.
C'est un délibéré historique qui est inédit, dans le sens que pour la première fois de l'histoire de la lutte contre le dérèglement climatique, un tribunal a reconnu qu'une action de désobéissance civile non violente était menée dans le cadre d'un état de nécessité. État de nécessité, ça veut dire qu'il y avait un lien direct entre l'action qu'on a menée, c'est-à-dire décrocher le portrait d'Emmanuel Macron pour montrer son inaction face au péril climatique, et les conséquences du dérèglement climatique.
Pourquoi cette relaxe aussi? Parce que l'action des militants lyonnais n'a pas causé de troubles à l'ordre public, elle était pacifique, relève encore le juge unique du tribunal correctionnel de Lyon. Un jugement que les décrocheurs de portraits voient comme une invitation à poursuivre leur mobilisation. Ils appellent à participer ce week-end à des marches dans toute la France contre l'inaction de la politique face au dérèglement climatique.
Et le parquet lui a fait appel de cette décision. Notons enfin cette mobilisation des professions libérales hier contre la réforme des des retraites, contre la possible disparition de leurs caisses autonomes. Selon les chiffres de la police et des syndicats, entre 10 et 20 000 personnes se sont mobilisées hier. Ce mardi sera encore estival avec un grand soleil sur la moitié sud du pays, quelques belles éclaircies au nord. Quelques averses pourraient toucher l'Auvergne en fin de journée. Ce matin, comptez 17 degrés à Lille, 19 à Nantes, Paris, Strasbourg, 25 degrés à Bordeaux, Limoges et Lyon, 26 degrés à Perpignan, entre 23 et 35 degrés cet après-midi.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture.